Monsieur avait levé la main. Oui, nommez-vous.
Patrick Chemla.
Je m'attache.
Je voulais avoir un renseignement concernant la traduction d'un mot qui paraît-il est réservé à Dieu, qui concerne le mot bara. Il paraît que, d'après, on a eu un cours d'hébreu moderne, il m'a dit que le mot bara n'existait pas dans l'hébreu moderne, qu'on ne pouvait pas dire on crée une entreprise, on n'utilisera pas le mot bara. C'est un mot réservé à Dieu. Est-ce que c'est...
Alors, vous voulez confirmation ? Voilà. Oui, en effet, le verbe bara, qui est le premier verbe utilisé dans la Bible, Bereshit bara Elohim, n'a comme sujet que Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la notion, par exemple, création artistique, création industrielle. On va utiliser d'autres termes, on va faire asiya, faire, ou yetzira, yotzer, un potier ou un artiste. Hein. Mais le verbe bara a comme sujet Dieu. Et comme l'hébreu moderne, même s'il s'est occidentalisé, est resté fidèle à certaines conceptions de la Bible, ça signifie qu'il n'y a que Dieu qui crée. Alors, sur le verbe bara, généralement, les penseurs juifs et chrétiens, d'ailleurs les pères de l'Église, voient dans ce verbe la création ex nihilo, il y a à partir de il n'y a pas, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a que Dieu et Dieu crée autre que lui. Hein. Donc ça c'est la première interprétation. Mais il faut savoir aussi qu'il y a certains lecteurs et interprètes, par exemple Ibn Ezra, Abraham Ibn Ezra, du XIIe siècle, qui lui remarque que le verbe bara ne signifie pas forcément création ex nihilo, et qu'il peut signifier aussi une création à partir d'un élément déjà existant, puisqu'il fait remarquer par exemple que les taninim, les grands animaux marins qui sont créés le troisième jour, on dit qu'ils ont été créés à partir de l'eau. Donc on voit que Dieu prend l'eau et fabrique, si on peut dire, ou crée plutôt les animaux marins. Et également, l'homme a été créé à partir de la poussière de la terre, le verbe utilisé, c'est bara. Mais en même temps, il reconnaît que le verbe bara, même, soit ça signifie création ex nihilo, soit création à partir d'une autre réalité antérieure, mais il n'y a que Dieu qui peut réaliser ce type de vie, c'est-à-dire en fait, c'est Dieu qui donne la vie. Voyez, l'homme, en fait, ne peut que travailler sur le monde qui existe déjà. Donc on le transforme, on le fait, on peut essayer de sauver la vie, peut-être voilà, une personne considérée comme morte, le cœur vient de s'arrêter, mais on va essayer de le faire vivre, etc. Mais créer la vie, au sens, dans un laboratoire, ça, on n'a pas fait. Vous voyez ? On maintient la vie, on peut la faire redémarrer, on peut atténuer, voilà, une anesthésie, etc. Mais en effet, il n'y a que Dieu. Hein, voilà, pour la réponse. Voilà.
Oui, je voudrais. Oui. Merci, Eliane. Jean-Albert Romeu, d'Aix-les-Bains et de la paroisse protestante sur Aix-les-Bains. Je voudrais connaître votre réaction. Vous avez parlé tout à l'heure de la vente des armes, une source économique extrêmement importante. Et la réalité que veut que pratiquement 80% des innovations technologiques viennent de la sphère militaire. Si nous prenons des exemples très concrets, que vous, comme ça vous pourrez tout de suite vérifier, les Boeing, c'est d'abord, au début, c'était les bombardiers. Le développement des bombardiers en 39-45 se sont reconvertis. Enfin, cette avancée énorme de l'aviation a fait qu'on a pu sortir les Boeing très vite après la guerre, mais c'était en fonction des connaissances des bombardiers, énorme. Hein. Les radars, et les pages les plus tristes, c'est les V1, les V2, c'est-à-dire les premières fusées, où tout le monde s'est arraché, ces ingénieurs nazis qui étaient très tolérants par rapport à Dora, où on faisait travailler comme esclaves des résistants et des juifs. Mais les choses continuent, c'est-à-dire que le processus, si on prend Internet, l'informatique, ils avaient déjà depuis longtemps des ordinateurs et Internet au Pentagone, et c'est quand l'armée a enfin décidé à laisser le privé, mais le numérique était déjà présent au Pentagone, 10 ans avant l'explosion par la Californie. Donc, pratiquement 80%...
GPS aussi, voilà.
Merci. Donc, pratiquement 80% des innovations technologiques viennent de la sphère de la recherche militaire. C'est terrifiant. Donc, que pensez-vous de cette triste réalité où, au bout du compte, c'est le lobby militaire qui est le premier à faire des commandes et même à financer l'application technologique?
Oui. C'est parce que l'intention ici du travail technologique, science, technosciences, disons que la science, elle reste neutre, c'est-à-dire un mathématicien. Bon, le mathématicien, lui, il établit le langage, en fait. Hein. Il y a quelques prophéties. Donc, il établit le langage. Hein, donc, voilà. Ensuite, il faut appliquer ce langage, parce qu'il faut un langage pour la science. Et à ce moment-là, bah, par exemple, pour la physique, le physicien a besoin de... Voilà. Et pour n'importe quel domaine scientifique, le langage, c'est le langage de mathématiques. Donc, le langage lui-même des sciences est neutre. Et après, il y a l'utilisation, donc c'est la technique, les technosciences, qui sont appliquées pour des finalités. Est-ce que ça veut dire que, automatiquement, c'est parce qu'on est obligé de passer par la voie du militaire pour ensuite arriver au civil? Non. On peut très bien imaginer, aujourd'hui, par exemple, parce qu'on se rend compte que c'est une nécessité, on essaye de trouver des moyens énergétiques non polluants qui ne sont pas des moyens justement militaires, éoliennes, l'énergie solaire, et tout est une question d'intention. Et Moïse, enfin, déjà Dieu l'a dit à Caïn, si tu t'améliores, tu t'élèveras, sinon sache que la faute est tapie à ta porte. Et Moïse le dira à la fin de la Torah, donc c'est dit au début de la Torah, c'est dit à la fin de la Torah, je place devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, tu choisiras la vie, voilà. Et donc ce sont des... On n'est pas obligé de passer par le militaire, c'est un fait que du fait que les nations n'ont pas trouvé encore le liant qui permettrait de comprendre qu'en travaillant ensemble, on apporterait la bénédiction pour les uns et pour les autres, et qu'on reste toujours dans un repli identitaire, culturel et autre de supériorité, hein, eh bien, on passe par la guerre, c'est-à-dire la domination du fort sur le faible. Mais ce n'est pas une obligation. Voilà, on pourrait aujourd'hui trouver des moyens, des découvertes, qui irait uniquement dans le sens du bien de l'homme, de guérir, de soulager. Imaginez toute cette somme. Je ne sais pas combien coûte un missile qui va exploser en quelques secondes. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec le prix de la fabrication d'un missile? En hôpitaux, en infrastructures scolaires, en guérison, en production alimentaire, enfin, sortir la misère du monde. Théologiquement, en termes de croyants, la bénédiction de Dieu est dans le monde. Mais nous sommes gestionnaires de cette bénédiction. C'est ça le sens du Shabbat de Dieu, c'est que Dieu met dans le monde la possibilité de se nourrir, de se vêtir, de se loger, et il dit à l'homme, voilà, je te donne maintenant les clés du magasin, voilà, je te donne aussi le code, je te donne le code. Le code, c'est la première loi. Tu peux manger de tout, mais cet arbre-là, tu ne manges pas. C'est-à-dire, sache mettre une limite à ton appétit d'être. C'est tout. C'est ça le sens de la loi. Ce n'est pas quelque chose de contraignant. Voilà. Après, la loi de Jésus, d'ailleurs, il ne remet pas en cause la loi. Jésus, il remet en cause une hypocrisie culturelle, c'est-à-dire que on paraît, n'est-ce pas, religieux à travers un culte extérieur. Donc, certains pharisiens, parce que c'était les religieux de l'époque qui sont visés. La question avec Paul et la loi, c'est encore un autre sujet. Mais au fond, la loi, elle dit quoi? Elle dit, bah, si on ne met pas une limite à son appétit d'être, hein, c'est ça. La première loi, c'est manger. Bon, bah, si tu ne mets pas une limite à ton appétit d'être, eh ben, tu vas dévorer ton voisin. Voilà. Bah, sache mettre une limite. C'est toujours le thème de l'humilité. Toute la loi, elle se résume à ça. Mange de tout, parce que c'est le monde de la bénédiction. Mais sache mettre une limite pour que l'autre puisse manger aussi, parce qu'il a aussi faim que toi. Hein? Voilà. Donc, on n'est pas obligé. C'est un fait qu'on guérit aujourd'hui par, et on avance dans notre monde par les découvertes qui viennent de, des technologies militaires, mais on aurait pu faire l'économie de, du militaire et aller directement dans le sens positif. Voilà.
Merci.
Donc Norbert Prin, moi je suis protestant et trésorier donc de l'amitié judo-chrétienne.
Webmaster.
Merci. Moi je voudrais saluer votre remarquable ouverture d'esprit. Quand vous parlez de Michel Onfray, quand vous dites les athées sont nécessaires dans la mesure où ils mettent en garde les croyants contre le fanatisme, contre l'idolâtrie, je trouve ça tout à fait remarquable. Et ça rappelle une parole du Rav Kook qui disait « L'athéisme est venu purifier la foi de ses scories de superstition. » Lumineuse explication relative à l'humilité. On retrouve ce que je disais tout à l'heure. C'est mots simples pour dire des choses très fortes. Invitation à ménager de la place pour l'autre, donc à faire, même si vous n'avez pas employé le mot, invitation à faire une sorte de tzimtzum. Et puis ce que j'ai beaucoup aimé aussi, je le dis presque chaque fois, mais la place de la femme. J'ai une part féminine très développée, j'aime bien rendre hommage aux femmes. Et dans le judaïsme, comme dans, d'ailleurs, aussi bien dans le catholicisme que certaines tendances du protestantisme, la femme, elle n'est pas toujours mise à l'honneur. Et je voudrais vous... Alors, ce qui est bien, parce que vous appartenez à la communauté libérale, donc qui donne toute sa place à la femme, où on a des rabbins féminins qui sont absolument lumineux, comme Pauline Beb, comme Delphine Horviller. Et je voudrais vous lire un texte sur la femme que je trouve absolument merveilleux, qui résonne bien avec ce que vous nous dites, avec ce que vous écrivez. Dieu, alors je crois qu'il répond à Élie, je ne suis pas trop sûr, mais il dit « Quand j'ai créé la femme, elle devait être spéciale. J'ai fait ses épaules assez fortes pour porter le poids du monde et assez douces pour réconforter ses proches. Je lui ai donné la force de donner la vie. Je lui ai donné la force de continuer quand les autres abandonnent, d'éclairer lorsque le monde s'obscurcit. Et je lui ai donné la force de guider les pas de l'autre quand tout le monde est perdu. Mais aussi la force de prendre soin de sa famille en dépit de la maladie et de la fatigue. Je lui ai donné la prière pour se confier à moi. Je lui ai donné une puissance infinie afin de transmettre avec passion et amour la Torah. Au sein de son propre sein des saints, son foyer, je lui ai donné la sensibilité pour aimer ses enfants d'un amour inconditionnel, même quand ces derniers la blesseront. Et finalement, je lui ai donné des larmes à verser quand elle en ressent le besoin. Tu vois, mon fils, la beauté d'une femme n'est pas dans son statut social, sa tenue, ni dans la façon de se coiffer ou dans son travail. La beauté d'une femme réside dans ses yeux. C'est la porte d'entrée de son cœur, la place où l'amour réside. Et c'est souvent par ses larmes que tu vois briller son cœur. Si je vous ai lu ce texte, c'est parce que quand vous lirez le rabbin Philippe Haddad, quand vous écouterez cette conférence, il prend toujours soin de faire une place, la place à la femme. Voilà, merci.
Merci Norbert.
Merci. J'ai pensé au texte des Proverbes, le chapitre 31, qui parle de la femme vertueuse. Mais j'ai aussi pensé une blague. Parce qu'il y en a qui me disent que ça manque de blagues. Ben, c'est un homme qui dit à son copain, au café, il dit « Ça y est, avec ma femme, on a trouvé un consensus, tout va bien. Moi, je suis capitaine après Dieu, et ma femme, c'est Dieu. »
Oh, ce n'est pas parce que je suis une femme que je prends la parole. Eliane Senot, membre de l'Église protestante unie de Savoie. Donc, un troisième protestant, jamais 203. Je reviens à ce que vous avez dit ce matin, le je, le tu, le nous, l'autre. Quand vous parlez du tout autre, de Dieu, comment le nommez-vous? Le tout autre, le transcendant.
Alors, la Bible utilise des noms de Dieu.
Oui, je sais, Adonai, Elohim.
Voilà. Donc, ce sont ces noms qui ne dé... Alors, Elohim, c'est-à-dire la divinité, oui. C'est un pluriel qui signifie les forces, parce qu'il est à l'origine de toutes les forces. Sinon, quand Moïse a posé votre question à Dieu, il dit, mais quel est ton nom? Comment on doit t'appeler? Et Dieu a dit, Eyé Asher Eyé, je serai, alors littéralement, je serai qui je serai, et qui a donné ensuite cette forme contractée de Yéhovah, c'est-à-dire le YHWH, qui est la contraction de il était, il est, il sera. En fait, c'est l'être dans le temps. Vous voyez? C'est pour ça qu'on traduit l'éternel. On devrait dire l'être éternel. En fait, dans le judaïsme et dans l'Église protestante, on traduit l'éternel. Et dans l'Église catholique, en général, on dit le Seigneur. Parce que dans la tradition juive et protestante, donc qui est une sorte de retour à l'identité hébraïque et l'identité juive, eh bien, on a gardé l'éternel, c'est-à-dire le nom de Dieu tel qu'il est écrit, le tétragramme, YHWH. Mais comme on le lit Adonai, qui veut dire mon Seigneur, donc l'Église catholique a plutôt retenu Seigneur, Adonai. Donc si vous voulez, entre le Seigneur ou l'Éternel, on retrouve les deux dimensions, c'est-à-dire le nom de Dieu tel qu'il est écrit et le nom de Dieu tel qu'il est lu. Mais les rabbins, qui ne voulaient pas utiliser le nom de Dieu hors de la prière, de la liturgie, ont façonné, si on peut créer, des expressions ou des mots pour désigner Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, Dieu est remplacé par le ciel. C'est pourquoi chez Matthieu, à part quelques cas, il parle du royaume des cieux, alors que Luc, il parle davantage du royaume de Dieu. Mais c'est la même chose, le royaume des cieux, le royaume des dieux. Mais selon cette logique que Matthieu, s'adressant majoritairement à un public de judéo-chrétiens, donc c'est des juifs, hein, ils avaient le respect du nom. Donc Matthieu ne dit pas Malchut Adonai, il dit Malchut Shamaim, le royaume des cieux. Mais par contre, Luc, qui parle à un public pagano-chrétien qui n'avait pas ce rapport respectueux avec la divinité, on appelait Zeus, Zeus, on appelait Apollon, etc. Alors que ça aussi, c'est une idée du judaïsme. C'est-à-dire que le respectable est appelé par un titre et pas par son nom. Hein? C'est-à-dire qu'on ne nomme pas, on donne le titre. Ça commence avec papa et maman. On n'appelle pas son père et sa mère par prénom. C'est-à-dire nous enseignons aux enfants le titre de notre position par rapport à eux. Bon, il y a eu, après mes 60 titres, vous savez, il y a eu c'était le temps de la camaraderie. On prenait le bain avec les enfants, on s'appelait par les prénoms, etc. On est des bons potes, on se tape sur l'épaule. On est revenu à ça. On a vu que ça ne fonctionne pas comme ça. Kaved et Avicha et Imecha. Cinquième parole. Honore ton père et ta mère. Reconnais le poids de l'autorité, le poids de la mémoire de ton père et ta mère. Donc, Luc, lui, il dit Malchut Adonai. Mais Shamaim, les cieux, ça désigne aussi Dieu. Mais nous avons d'autres expressions. On a Hachem, le nom. Le nom ineffable, celui qu'on ne peut pas prononcer. Il y a le Saint béni soit-il, Hakadosh Baruch Hu. Ça veut dire le transcendant qui fait immanence. Transcendant, immanent. Le saint, béni soit-il. S'il est saint, il est séparé. S'il est béni, s'il est source de bénédiction, il est en proximité. Comment il peut être à la fois transcendant, immanent? Alors vous avez soit la conception purement transcendante de Dieu, dans les spiritualités orientales, surtout une transcendance. Ça fait sourire le bouddhiste de parler de Dieu. Et puis de l'autre côté, vous pouvez avoir l'animisme, qui est une présence dans les objets, le totémisme, etc. Et puis, le judaïsme va se situer entre les deux, à la fois un Dieu transcendant, mais il est proche de ceux qui l'invoquent avec sincérité dans le psaume. Bien sûr, dans la foi chrétienne, c'est le Père et le Fils. On pourrait dire le Père, c'est le transcendant, et le Fils, c'est l'immanent. Donc Dieu se fait homme, et donc il est, et le lien, bien sûr, c'est le Saint-Esprit, qu'on dit en hébreu l'esprit de sainteté, roi HaKodesh. Donc il y a différentes expressions, des fois on dit Boré Olam, on dit créateur du monde, Ribono Shel Olam, le maître du monde. Donc il y a différentes expressions pour mettre en exergue un attribut particulier de Dieu. En fait, les noms de Dieu vont désigner ce que les théologiens vont appeler les attributs de Dieu, la manière dont Dieu se situe par rapport à Dieu. Si on veut mettre, il y a aussi Shaddai, ou le El Shaddai, qui est utilisé surtout par les patriarches, quand Jacob dit à ses enfants que le El Shaddai, pardon, Makom, merci. Oui. Voilà, j'y reviens. Donc le El Shaddai, ça veut dire le Dieu Tout-Puissant, et que les rabbins entendent Shaddai, celui qui a mis une limite à son monde. Et un arbre va grandir, puis il va s'arrêter à un moment donné. Donc il met un terme. Un enfant va grandir, on va grandir jusqu'à notre taille maximale, et puis ensuite on s'arrête. Voilà. Et puis, oui, en effet, les rabbins vont dire Makom, Dieu est appelé le lieu du monde. En jeu de mots français aussi, lieu, Dieu. Parce qu'il est le lieu du monde, mais le monde n'est pas son lieu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lieu vide de la présence de Dieu. Donc, voyez, en fonction de telle ou telle expression, on va avoir, si on peut dire, une perception du divin d'une certaine manière. Et donc les rabbins ont beaucoup réfléchi à ça. Donc ces expressions qu'on trouve dans le Talmud, dans le Midrash, dans la Kabbale, dans la tradition orale, n'est-ce pas, étaient des expressions qui venaient remplacer en quelque sorte les noms de Dieu qui sont mentionnés dans la Bible et qui sont réservés uniquement à la liturgie ou à la lecture de la Bible à la synagogue, etc. Donc je ne sais pas, est-ce que je réponds à votre question, madame ? Oui, voilà. Donc, alors, maintenant, si vous voulez, quand le juif parle, il dit Hachem, Baruch Hachem, enfin, béni soit Dieu, Baruch Ata Hachem, béni soit le nom. Voilà, le nom. Celui qui a un nom. Celui qui a un nom et qui donne des noms à son monde. En même temps, en disant que Dieu donne des noms, c'est pas l'homme qui donne le nom à Dieu, parce que finalement, c'est l'homme qui donne le nom à Zeus. Tu es Zeus, tu es Apollon, tu es Poséidon, tu es Vénus, non. C'est Dieu qui donne le nom. Voilà. Donc la dignité de l'humain, hein, vient du fait que Dieu le nomme. Voilà. Et nous répondons à Dieu à partir du nom. Je me souviens d'une une soirée interreligieuse à Magdala, communauté de Magdala, et donc il y avait juifs, chrétiens et musulmans, donc c'était une communauté soufie qui était présente, et donc à la fin, c'était un week-end avec un Shabbat, fin de Shabbat, et donc chacun a chanté un chant. Alors j'ai chanté je ne me rappelle plus quel chant, mais j'avais dit le nom Adonai. Et il y a une femme, une soufie qui est venue vers moi, elle m'a dit, vous êtes le gardien du nom, vous êtes le gardien du nom. Ça m'a vraiment touché de la part... du musée, mais bon, les soufis, vous savez, ils ont le sens de cette proximité, que tout converge vers Dieu. Alors, ils disaient, nous, on dit Allah, le Dieu, c'est le Elohim, mais vous avez gardé, vous êtes les gardiens de la mémoire de Moussa, de Moïse. Quel est ton nom? Il dit Heyi Asher Heyi, donc Adonai. Et bien sûr, et qu'est-ce que c'est que le monde messianique, hein? C'est dans Zacharie 14, Vehaya Adonai le Melech HaKolares. Et ce jour-là, le Seigneur, l'Éternel, le tétragramme, sera roi sur la terre. Et Dieu sera un et son nom sera un. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de dichotomie entre l'essence de Dieu, ce qu'il est, et puis son nom, son invocation. C'est-à-dire que ça sera une conversion au nom. Vous voyez, les prophètes n'ont pas, que les religions ou les peuples vont se convertir au judaïsme. C'est pas très important ça. C'est ce qui est important, c'est que les hommes se convertissent au nom. Il sera un et son nom sera un. Ça veut dire en même temps, son nom sera unificateur. Que peut-être chacun invoquera Dieu dans son langage, mais que le nom de Dieu et le nom de l'homme se renverront, si vous voulez, comme un miroir. Et donc c'est la négation de toute forme de négationnisme. Parce que le négationnisme, finalement, dont l'antisémitisme n'est qu'une forme, mais ça peut être aussi la xénophobie, ça peut être la haine de l'étranger, etc., à tous les niveaux, eh bien, c'est la reconnaissance du nom. Voilà. Donc, le nom de l'homme est le miroir du nom de Dieu. puisque nous portons l'image de Dieu et que cette image est masculine et féminine en même temps. Ça, c'est pas faux de dire que Dieu est notre Père et notre Mère. Il y a quelques années, avec un ami qui est disparu, mais comme ça je rappelle sa mémoire, Gilbert Lévy, on avait écrit, on avait mis en scène Jonas, le prophète. On appelait ça Jonas le prophète malgré lui, moi, un clin d'œil à Molière, parce que mon Jonas, il est prophète et il ne veut pas être prophète, mais là où il va, il est prophète. Paf! Il convertit les gens, alors que lui, il ne veut pas. Bon, à chaque fois, ça marche. Et donc, quand on a fait cette pièce, il y a un moment donné l'appel de Dieu à Jonas. Lève-toi et va vers Ninive, la grande ville, écris vers elle mon appel, car leur méchanceté est montée jusqu'à moi. Alors, comment représenter scéniquement, rendre audible la voix de Dieu? Est-ce que c'est à la manière hollywoodienne de Cécile B. 2000 ? Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Paf ! Tu n'auras pas... Bon. Ouais. Alors, la vie, on va sortir un petit peu. Alors, finalement, je me suis inspiré de la Kabbale. J'ai dit que la voix de Dieu, elle est masculine et féminine. Elle commence par le masculin, elle se tresse avec le féminin, comme une tresse d'ADN, ADN Adonai, hein, voilà. Et ça se termine par le féminin. Voilà. Parce que c'est le nom de Dieu. C'est-à-dire que le nom de Dieu, c'est l'harmonie du masculin et du féminin. C'est-à-dire le YHWH, parce que la première lettre, c'est un Yud, après la deuxième lettre, c'est un He, la troisième lettre, c'est un Vav, et la quatrième lettre, c'est un He. Voilà. Le Yud, donc les lettres longues, alors psychanalyste, s'il vous plaît, c'est les lettres droites, ce sont des lettres masculines. Hein, voilà. Et puis, les lettres pleines sont les lettres féminines. Et en particulier, le Yud et le Vav représentent donc la dimension du masculin, et le He, c'est une matrice. C'est le féminin. C'est la Rechamim, c'est la miséricorde. Donc, en fait, le nom de Dieu dans la Kabbale, c'est masculin. Féminin, masculin, féminin. Eh oui, c'est les femmes qui ont le dernier mot. Ouais. Mais c'est ça, le nom de Dieu sera un, c'est-à-dire Dieu sera un et son nom sera un, c'est-à-dire on reconnaîtra aussi cette dimension du féminin. Voilà. Voilà. L'histoire se féminise parce qu'elle est porteuse de l'espérance. C'est pour ça que ça passe par les femmes. C'est pour ça au début, elles sont stériles. Elles sont stériles parce qu'il y a l'attente de celui qui va porter l'espérance de Dieu. Alors Sarah, Rebecca, Rachel, Léa aussi, elle devait être stérile, mais comme elle n'était pas aimée, alors Dieu a compensé par le fait qu'elle est devenue mère, et puis jusqu'à Marie, hein, c'est-à-dire toujours l'idée de le féminin est porteur de l'espérance. Donc, vous voyez, ça traverse toute la Bible, ça. Mais si on n'entend pas cette dimension féminine de Dieu, que mâle et femelle, il les créa au départ, alors on va créer des institutions trop virilocentriques. Moi, c'est une des raisons, je vous dis franchement, c'est une des raisons pour lesquelles je suis passé du judaïsme orthodoxe au judaïsme libéral. C'est parce que cette dimension du féminin doit trouver son équilibre. Pourquoi 10 hommes pour que la présence de Dieu soit là, quoi, et des femmes, alors il n'y a pas de présence de Dieu avec les femmes, c'est 10 personnes. D'accord, 9 hommes et un poisson rouge, ça fait pas 10. Ok, mais quand même, s'il y a 5 hommes et 5 femmes, c'est là. D'ailleurs, et je m'appuie bien sûr sur les textes, c'est-à-dire que quand Abraham a intercédé pour Sodome, il est descendu jusqu'à 10. Pourquoi il n'est pas descendu en dessous de 10? Parce que à l'époque de Noé, ils étaient 8. Noé et sa femme, les 3 fils et les brus, ça faisait 8. Et même si on ajoute... Alors, on aurait pu aller jusqu'à 9, et Dieu compte dans le minyan, comme on dit. Ça veut dire qu'on ajoute en plus Dieu. Et quand même, le monde n'a pas été sauvé. Alors il dit, moi je vais jusqu'à 10, puisque je vois que s'il y en a 9, de toute façon, même en comptant Dieu dans les 9, le monde n'a pas été sauvé. Le monde ne produit pas suffisamment d'hommes justes ou de femmes justes pour donner une espérance de survie. C'est une humanité qui s'est auto-détruite. Voyez. Alors, il descend pas en dessous. Donc je dis, voilà, il y a des textes qui disent que Déborah, par exemple, était une juge, elle rendait la justice sous son chêne, comme Saint-Louis sous son palmier, son palmier comme Saint-Louis sous son chêne, voilà. Mais, voilà, on en perd son...
son hébreu.
Oui, on en perd son sexe, mais son genre. Mais en tout cas, oui, c'est pour dire que, voilà, il faut penser, me semble-t-il, en termes d'équilibre. Parce que c'est cet équilibre qui amène la paix, en fait. L'équilibre homme-femme, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie du monde. Les spirituels, les religions d'Extrême-Orient ont compris ça dans le yin et le yang. Hein. Et puis, c'est pareil dans, je veux dire, même en physique, quoi. Je veux dire, anode, cathode, oui, ça en fait des expériences. Une pile, ça marche que s'il y a du plus et du moins, voilà. Sans dire qui est plus, qui est moins, enfin, peu importe. C'est simplement qu'il y a une différence de potentiel qui crée de l'énergie. Voilà. Et si on supprime l'autre... Voilà, on se supprime soi-même. Voilà, on sait bien ce que ça donne quand il y a des mariages intrafamiliaux, on appauvrit le sang, hein, on sait cela. Voilà. Et donc, il faut toujours chercher ailleurs. Hein. D'ailleurs, c'est ça, bon, bien sûr, on peut dire la stratégie d'Abraham, c'était de dire « ma femme, c'est ma sœur, parce qu'il ne faut pas attendre les miracles de Dieu ». Ben, il a eu peur, il a dit « voilà, c'est ma sœur », parce qu'il est rentré dans une société où on volait les jolies femmes. Mais qu'est-ce que c'est que cette société? Parce que t'as une jolie femme, on veut te la prendre, parce que c'est pas pour toi, parce que c'est pour le roi. Ben, on le voit, ça, les abus de pouvoir. Les présidents de n'importe quel état, et la petite porte secrète, ou la maîtresse, etc. Ben, c'est depuis David et même avant. Hein, donc on dit depuis Abimelech. Voilà. Sarah est belle, je ne sais pas quelle était la beauté, selon les canons de la société égyptienne ou philistine de l'époque, elle était digne d'un roi. Hop, alors on tue le mari, on prend la femme. Voilà. Ça n'a pas changé. Le pouvoir, ça va avec les femmes. Voilà. Donc il faut faire attention aussi quand je dis qu'il y a un équilibre masculin-féminin. C'est pas non plus... abuser de la femme en lui donnant un pouvoir pour pouvoir abuser de son pouvoir sur elle, c'est vraiment penser en termes d'un équilibre et de partage. Hein. Alors comme Abraham, il rentre dans une société où il dit « il n'y a pas la crainte de Dieu », parce que la deuxième fois, il dit « pourquoi tu l'as dit, c'est ta sœur, c'est ta femme ?»« Ah, mais parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu. » Et c'est quoi la crainte de Dieu? Ben, c'est le respect des individus, pour ce qu'ils sont, ou le respect de la famille, pour ce qu'elle est, ne pas la détruire. Hein. Et voilà. La crainte de Dieu, c'est le respect de la vie. On dit par exemple que les sages-femmes craignaient Dieu et n'ont pas accompli l'ordre de Pharaon. C'est quoi Pharaon? Qu'est-ce qu'avait demandé Pharaon? Pharaon avait demandé de jeter les bébés mâles dans le Nil. On récupéra les femmes. Voilà, encore une fois, on tue les garçons, on récupère les femmes, elles deviendront égyptiennes, les femmes hébreues deviendront les matrices de la société égyptienne. Les sages-femmes, c'est-à-dire celles qui ont pour vocation de donner la vie, hein, de faire sortir l'embryon, enfin le bébé, c'est-à-dire embryon, c'est une racine que ivri, hein, c'est une racine que hébreu. En fait, un bébé qui naît, c'est un hébreu potentiel. Ça veut dire qu'il passe du monde de sa mère, qui vient du père aussi, dans son monde à lui. Voilà. Hébraïser, c'est-à-dire se mettre en de l'autre côté. On ne prie pas, je ne m'éloigne pas de notre thème, on ne prie pas si on ne s'hébraïse pas, c'est-à-dire on se met face à Dieu. Oui. C'est-à-dire, on est face au Créateur, face à Jésus, face à Dieu, face à la transcendance, hein, mais on est dans une altérité. Le rapport masculin-féminin induit le rapport de Dieu et de l'homme. C'est-à-dire, ezer kenegdo, un compagnon en vis-à-vis. Comme l'homme vis-à-vis de Dieu est ezer kenegdo, un compagnon vis-à-vis. Et comme Dieu est aussi un ezer kenegdo. Tout à l'heure, si vous voulez, on chantera quelques chansons. Dit mais aïn yavo ezri, d'où viendra mon aide? Ezri me imadonai. Mon aide viendra de Dieu. En c'est Shamaim Barès, celui qui a fait les cieux et la terre, dit le psalmiste. Hein, c'est-à-dire, il lève les yeux. Donc Dieu est l'aide de l'homme, l'homme est l'aide de Dieu, parce que Dieu nous demande de l'aider dans l'accomplissement de la réalisation de ce monde idéal. C'est ce que disent les prophètes. Les prophètes disent que Dieu nous prie de pratiquer la justice. Parce que si vous ne pratiquez pas la justice, il n'y aura pas de justice. Si nous sommes enfermés dans nos égoïsmes, dans nos violences, dans nos indifférences, ben ça sera un monde d'indifférence, de violence, et le monde s'autodétruit. Donc en fait, le discours des prophètes qui nous apparaît comme des remontrances et des mises en garde, et même Jésus également, dans ses remontrances et les pharisiens, mais c'est des prières et des appels d'amour. Mais secouer le cocotier, hein, c'est-à-dire quand Jésus dit « pharisiens hypocrites », arrêtez de faire l'hypocrisie, de faire un culte du paraître, de vitrine, montrer avec les beaux habits, etc., et travailler l'intérieur, nettoyer l'intérieur de la coupe, pas seulement l'extérieur. Vous voyez ? Donc, il y a donc ce rapport à vos souhaits, ce rapport à Dieu qui passe aussi par cette dimension du masculin. Donc ces femmes qui craignaient Dieu, eh bien ça signifie elles ont sauvé la vie que Pharaon voulait détruire. Donc chaque fois qu'il y a la crainte, chaque fois que dans le texte de la Torah, vous voyez la crainte de Dieu, c'est pas la peur de Dieu, c'est pas la trouille de Dieu, c'est pas la peur d'aller griller en enfer, le prophète ne parle pas du tout de ça, c'est-à-dire la peur de supprimer la vie. La peur de supprimer la vie. Parce que la vie, elle vient de Dieu. Dans le petit livre, alors ce petit livre, comme les autres d'ailleurs, sont des synthèses du travail qu'on a fait dans l'Essonne. Et en particulier, dans le récit de Élie, il y a un personnage qui s'appelle Obadiah. Obadiah. On n'en parle qu'une seule fois de ce Obadiah dans le chapitre 18. Obadiah, c'est un intendant de Achab et de la reine Jézabel. Surtout Jézabel. Alors là, attention, Jézabel, elle va liquider tous les prophètes. Hein. Parce que, comme les prophètes sont des contre-pouvoirs et qui dénoncent les idolâtries, le dieu Baal, n'est-ce pas ? Alors, qu'est-ce qu'elle fait Jézabel, qui elle est une prêtresse du dieu Baal ? Elle va tous les zigouiller. Et on nous dit que ce Obadiah était craignant Dieu. Et quand on voit, c'est, lisez le texte, il est présenté comme il a peur, c'est un peu un froussard. Et bien, malgré sa peur, c'est un juste des nations. Je pense que ceux qui prenaient des risques pendant la guerre, ils avaient la trouille de la Gestapo de se faire prendre. Mais l'amour de la vie, et ceux qui avaient la croyance en Dieu, l'amour de Dieu, était plus fort que leur peur. Et ils ont caché. Et bien on dit que ce Obadiah, il a caché 100 prophètes dans 2 cavernes. Et comme il était intendant du roi, il volait la nourriture et il donnait à manger. Il donnait à manger à ses prophètes. Au risque de sa vie. Alors que Élie, lui, il était nourri par Dieu. Eh bien, il faut comparer entre le fait d'être nourri par Dieu et prendre le risque de nourrir de son propre chef au risque de sa vie. Et c'est pour ça qu'il est dit qu'il est craignant Dieu. Il n'est pas dit de Élie qu'il est craignant Dieu. Mais ce Obadiah, que vous découvrirez peut-être, vous allez voir ce personnage. Et il porte bien son nom, Obadiah, c'est-à-dire serviteur de Dieu. Et voilà. Donc la crainte de Dieu, ça va avec le respect de la vie. Et donc quand on prie le Dieu de vie pour ensuite entrer dans le monde et apporter cette vie, cette expérience de vie et spirituelle que nous avons vécue face à Dieu. Et donc, on pourrait dire, celui qui prie, il prend davantage conscience de la responsabilité qui est la nôtre en tant que croyant dans le monde. Celui qui n'a pas la foi, comme on dit, ou celui qui n'a pas cette conscience de Dieu, il se lève le matin, il prend son café, il va à son boulot, voilà. Mais si avant d'aller travailler, je fais la prière, je me resitue dans une dimension cosmique, les cieux et la terre et toute leur armée, et moi, petite créature de Dieu, dans ma chambre, dans ma chapelle, dans ma synagogue, dans mon cœur, dans le lieu où je me trouve, avant d'entrer dans le monde métro boulot dodo, bien, je suis créature de Dieu et je demande à la source de vie de m'aider à apporter cette vie. Mais si je suis chef d'entreprise ou en tant que membre d'un groupe, je ne sais pas, avec mes collègues de bureau, dans mon association, etc., mais mon rapport au monde va être différent. Je me suis abreuvé. Mon petit déjeuner, c'est la prière. Hein? Voilà. J'abreuve mon âme. Après, j'abreuve mon corps, mon café, ma tartine, etc. Puis après, on va au boulot. Bah, ça donne une autre dimension. C'est l'expérience spirituelle que l'on va avoir avant d'aller travailler. Donc, ça nous ouvre sur d'autres perspectives. Vous voyez ? On s'ouvre à l'absolu, et après, en effet, on va rentrer dans le monde, ici et maintenant, avec les petits soucis, les problèmes, il faut gérer tout ça, les internet, les téléphones, les portables, et voilà, et les compressions dans le métro, on pense qu'il n'y a plus de place, il y a encore de la place, et l'élasticité du corps humain, incroyable, parce qu'il n'y a plus de place, attendez, anonymat complet, corps à corps, hein, hop, mais un téléphone a sonné, excusez-moi, hein. Et dans tout ça, on essaye de tenir la barre pour ne pas basculer sur le voisin. Hein. Ben, on aura, en tout cas, on a eu l'expérience spirituelle avant. Ça donne du sens. Quelqu'un nous heurte dans le métro, au lieu de lever la voix, pardonne. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, ils vont au boulot. Voilà. Plutôt que de dire, ouais, mon pare-choc, oui, mes chaussures. Ça va, il y en a qui n'ont pas de chaussures. Calme-toi. Hein? Bon, et puis voilà. Bon, vous voyez, c'est la crainte de Dieu. Voilà. Ces femmes, ce sont les premières résistantes de l'histoire, qui sont opposées à un pouvoir dictatorial. Eh bien, ce sont ces femmes qui s'appelaient Shifra et Pua, qui étaient peut-être des Égyptiennes, hein, mais elles avaient un cœur de vie. Voilà. Et la propre fille de Pharaon, qui a été contre son père, elle a nommé Moïse, elle a eu pitié, dit le texte, elle a eu pitié et elle a nommé Moïse. Alors je vais continuer en disant que, ce qu'on a dit ce matin, c'était déjà une petite introduction, c'est ce qui découle de la notion de création. Il y a encore d'autres choses à dire sans doute, si nous méditons sur la notion de création, de toutes les implications que cela peut avoir, mais ensuite l'homme est créé, Et donc il est responsabilisé. C'est important ça, de dire que l'homme est responsabilisé. Alors de quelle manière est-il responsabilisé ? Il est responsabilisé parce qu'il est placé dans le jardin, comme il est en Genèse 2.15, l'Erovda ou Shomra, c'est-à-dire que Dieu a placé l'homme dans le jardin pour le travailler et pour le préserver. L'homme n'est pas créé en situation de prière. C'est-à-dire que Dieu ne crée pas un rabbin ou Dieu ne crée pas un prêtre. Dieu crée un jardinier. C'est-à-dire qu'il y a un travail qui lui est confié. Et on sert Dieu, Adam va servir Dieu par le fait de travailler le monde que Dieu lui a confié. C'est pas ton monde, dit Dieu, c'est le mien. Je fais référence à un midrash d'ailleurs. Le midrash, c'est l'imagination rabbinique, à ne pas prendre au premier degré. Les rabbins ont beaucoup d'imagination. Et oui, mais ils ont pensé à la machine à remonter dans le temps. Enfin, il y a beaucoup de midrashim comme ça. Ce qui est important, c'est la pensée qui est véhiculée. Est-ce que ça me donne à penser ? Est-ce que ça donne du sens ? Il y a un rabbin qui dit dans le midrash que Dieu se promène avec Adam dans le jardin d'Éden. Il lui dit : tu vois tous ces arbres que j'ai planté, des arbres fruitiers, c'est pour toi que je les ai plantés. Et si tu détruis ce monde, il n'y aura personne pour le refaire une deuxième fois. Ça veut dire, moi j'ai créé le monde une fois, mais je ne vais pas le faire une deuxième fois. Donc maintenant tu es responsable. Donc si tu pollues la planète, si tu perces ta couche d'ozone, si tu fais disparaître des espèces, si l'atmosphère est irrespirable, tu seras responsable. S'il n'y a plus de forêt amazonienne, si ton chiffre d'affaires est plus important que le principe de responsabilité, Hans Jonas, hein, l'ami de Hannah Arendt, le principe de responsabilité, vous savez, c'est toute action que je pose aujourd'hui doit penser celui qui n'est pas encore là. C'est ça le principe de responsabilité. Et comme c'est une réflexion sur la technologie, ça a été écrit dans les années 80, peut-être même 70, il faut vérifier le principe de responsabilité Hans Jonas. Et donc déjà le début, si vous voulez, du développement technologique, et il dit, voilà, en fait, nous nous engageons vis-à-vis de ceux qui ne sont pas là. Mais Moïse l'avait déjà dit avant de mourir. Il dit, l'alliance avec Dieu, elle est avec vous. Asher imachem hayom, ve'im asher imenu po hayom, avec celui qui n'est pas là aujourd'hui. Comment on peut engager celui qui n'est pas là aujourd'hui dans une alliance, dans un contrat? Mais tous les responsables de droit et juridiques vont vous dire, c'est pas possible, il faut qu'il y ait deux contractants qui soient présents, signés, etc. Eh bien, parce que Moïse dit, vous avez la responsabilité de vos enfants et de vos petits-enfants. Donc en fait, de quelle manière on engage les générations futures? Par l'éducation. Voilà. Et donc, le principe de responsabilité, c'est ce qu'on va poser comme acte aujourd'hui, ça implique aussi les générations futures. Parce que les générations futures qui vont venir au monde, ils vont dire, quoi, c'est ça le monde que tu nous as laissé? Papa, maman, vous, c'est ça le monde que vous avez laissé? Cette pollution, ces guerres, cette intolérance, cette indifférence? Voilà. Donc, la responsabilité est donnée à l'homme. Tout ce que j'ai fait, c'est pour toi. Maintenant, sois un bon jardinier. Donc, vous voyez, le premier métier de l'homme, c'est jardinier. Jardinier, ça veut dire faire bonifier le monde de l'homme, le travailler, mais le conserver. Vous voyez, c'est important, les deux termes. On a souvent reproché à la Bible, disant, oui, c'est la Bible qui est responsable de la dégénérescence, de la pollution, parce qu'il dit conquérir le monde, voilà, à la conquête du monde. Donc c'est la Bible qui est... C'est Michel Onfray qui le dit, mais il n'a pas eu bien la Bible. Le problème, c'est parce qu'on lit la Bible en français et avec des mauvaises traductions. Et toutes les traductions sont mauvaises. Il faut s'approcher un peu plus de Chouraki, etc. Mais à un moment donné, il faut faire l'hébreu. Parce que si on ne fait pas d'hébreu, à cause des mauvaises traductions, on a une mauvaise perception et de la religion, et de Dieu, et du message qu'il veut nous transmettre, dans beaucoup de domaines. Donc, la Bible ne dit pas qu'il faut détruire le monde, que l'homme est un conquérant aveugle. Il faut rester dans la cohérence du monothéisme et de l'éthique monothéiste. Premier métier, c'est jardinier. Est-ce qu'un jardinier, c'est un conquérant du monde? C'est celui qui doit bonifier le monde. C'est ça le sens de la conquête. Bien sûr qu'il y a une lutte avec la nature, et une lutte de survie. On se bat encore avec les microbes, avec les virus. Ok? Mais encore une fois, si au lieu d'utiliser nos milliards et nos neurones pour fabriquer une bombe encore plus sophistiquée, à tête chercheuse, pointeuse, etc., on mettait nos neurones, parce qu'il y en a, la matière grise, grâce à Dieu, hein, Baruch HaShem, hein, si on mettait ça au service de la lutte contre les maladies, etc., on aurait peut-être solutionné les questions sida et cancer, etc.
Paludisme.
Et d'autres, n'est-ce pas? Donc, où on veut mettre la bénédiction de Dieu? C'est-à-dire le don que Dieu nous a donné, la grâce que Dieu donne peut-être aux scientifiques, aux chercheurs, etc. Est-ce qu'on veut mettre du côté de la destruction ou côté de la construction? Je place devant toi la vie et la mort, toujours cet appel de Dieu. Je place devant, c'est la petite voix, je place devant. Je pense qu'un scientifique qui fait une grande découverte peut se poser cette question-là. Est-ce que je révèle ou est-ce que je ne révèle pas? Rabbi Nachman de Breslav a brûlé un livre, d'ailleurs Marc Alain Wagnin a écrit un livre, le livre brûlé. Il dit, oui. C'est-à-dire il a brûlé un livre parce qu'il a dit, ce que j'ai dit, le monde n'est pas prêt encore à l'entendre. Il vaut mieux le détruire plutôt que ça tombe entre de mauvaises mains. Peut-être qu'il y a des scientifiques qui ont découvert des choses, ont dit, oh là là, mais ça, si c'est utilisé à mauvais escient, je sais pas moi, imaginez quelqu'un a découvert le moyen de traverser la matière. Voilà. C'est de la science-fiction. J'ai trouvé le moyen de traverser la matière. Et maintenant, de deux choses une. Bien, je veux m'enrichir, c'est sûr, là, je prie Nobel, etc., j'ai plus de problème de fin de mois. Oui, mais alors, c'est les militaires. Il n'y a plus de contrôle. Alors, qu'est-ce que je fais? Je garde, je détruis. Question éthique qui se pose. Les comités d'éthique, c'est ça. S'il n'y avait pas de comité d'éthique, on aurait déjà cloné l'homme. Hein. Ah, je vous ai déjà vu. Ah, c'est moi. Comment vas-tu? Ah, mon clone. Voilà. Je m'appelle Jean-Claude. Enchanté. Voilà. Non. Donc, il y a des questions qui se... Je place devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Et Dieu nous dit, faites le bon choix. Et en même temps, nous sommes libres. Si vous voulez vous autodétruire, ben voilà, lisez le texte, vous lirez le récit du déluge, par exemple. Déluge d'eau, déluge de feu. Bon. Donc l'homme est responsabilisé. Responsabilisé en hébreu, ça veut dire penser après à l'autre. Penser à l'autre après. Avec le mot responsable, c'est aharayut. Aharayut. Bon, enfin, la racine c'est ahar. Ahar ça veut dire après et ça veut dire autre. Aher. Ahar, aher. Ahar c'est après, aher c'est autre. L'autre c'est toujours celui qui vient après. C'est-à-dire en français, autre et après, c'est deux étymologies différentes. Mais en hébreu, autre et après, c'est la même étymologie. Parce que l'autre vient toujours après. Parce que je suis toujours le premier, puisque quand je viens au monde, mes cris signifient mon désir d'être, comme disait Spinoza. N'est-ce pas, les cris du bébé, c'est le désir d'exister. Donc il y a le « je » qui est toujours premier, je ne peux pas échapper. « Je pense ». Il n'y a pas que « je pense », « je pleure », « je désire hein, » aussi. Peut-être qu'il y a, peut-être même avant la pensée, il y a peut-être le désir. On est des êtres de désir, on est des affects, et puis ensuite, il y a la raison. Mais ça ne fonctionne pas toujours à la raison. Des fois, on reste des êtres très affectifs. Peut-être on est plus affectifs que raisonnables. Et donc, l'autre et l'après, qui viennent après moi, donc, m'invitent à cette responsabilité. Je dois penser au monde d'après, je pense à mon prochain. Quelles sont les manières de me relier au monde? Ben, c'est d'abord à travers mes cinq sens, quand ils fonctionnent, mes cinq sens. Mais si quelqu'un est handicapé, il a perdu un sens, bon ben, il aura quatre sens ou trois sens, ou il y aura une compensation. Les sens me donnent l'information du monde. Et ces informations me donnent la pensée du monde. De la pensée va naître la parole, c'est le développement des sociétés humaines. On peut penser qu'à un moment donné, on passe d'une pensée à la parole, et ensuite, l'action. La pensée, la parole, c'est la pensée exprimée, et l'action, c'est la pensée agissante. Eh bien, nous trouverons dans la prière en pensée, par exemple la méditation, la prière en parole, comme la dévotion, la prière en acte, qui est la dépossession. La prière en pensée, la prière en parole, la prière en acte. Alors nous sommes habitués, peut-être nous, à la prière, surtout exprimée, mais on peut très bien imaginer une prière intérieure, qui n'est pas exprimée. Et puis, il y a peut-être des formes de prière qui se traduisent par des actes, le fait de donner, le fait de se déposséder. Alors, on va aller jusqu'à Eliane. Eliane ?
Oh oui, c'est vous.
D'accord. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est l'histoire de la prière dans la Bible. L'histoire de la prière dans la Bible. Alors, donc Dieu place Adam dans le jardin d'Éden, qui veut dire le jardin de la jouissance. Alors, il faut bien signifier, n'est-ce pas, que le monde n'est pas l'Éden. Ça aussi, c'est une lecture un peu rapide. On pense que Dieu a créé le monde, c'est l'Éden, et puis ensuite, il n'y a plus d'Éden. Non, non, non. Le monde, c'est le monde, et dans le monde, il y a l'Éden. Et l'homme n'a pas été créé dans le jardin d'Éden. Il a été créé à l'extérieur. Le hafar de la création de l'homme n'est pas de l'Éden. Il faut lire le... On va faire un peu d'hébreu, regardez. Genèse 2, verset 15. Vaikach Adonai Elohim et Ha'adam, Vayanichehu began Eden, Le'ovda u'shumra. Et il prit, le verbe avant le sujet, et il prit Adonai Elohim, il y a un doublon ici, c'est Adonai Elohim, c'est-à-dire, on pourrait traduire le Seigneur Dieu, ou l'Éternel Dieu, prit le Adam, avec l'article, et le Adam, c'est-à-dire le glébeux, comme traduit Chouraki, ou l'homme qui vient de l'humus. Donc, il porte... Vous voyez, comme on entend en français, on passe à côté, mais quand l'hébreu entend à Adam, il entend vraiment le glébeux. Donc ça renvoie vraiment à la glèbe, hein, à son origine. Donc il prie Adonai Elohim. Dans le premier chapitre, il y a seulement Elohim. C'est Dieu en tant que créateur, ça veut dire celui qui fonde la nature. Et dans le deuxième chapitre, il y a Adonai Elohim. C'est-à-dire, en plus, il y a le nom de Dieu qui est associé à Elohim. Premier chapitre, c'est l'homme de nature. C'est l'homo naturalis. Dans le deuxième chapitre, c'est l'homo religiosus. C'est l'homme de la foi. C'est pas l'homo sapiens. C'est pas l'homo faber. C'est pas l'homo economicus. Ça n'intéresse pas la Bible, ce type d'homme. Il y a certainement des phases. Important, la Bible n'est pas un livre de science, c'est un livre de conscience. Si la science prouve que le monde a 14 milliards d'années, il a 14 milliards d'années. C'est un fait, c'est incontournable. C'est une vérité prouvée mathématiquement, physiquement. Voilà. Les jours de Dieu, c'est pas 6 fois 24 heures avec les fossiles et les dinosaures à l'intérieur. C'est le monde de Dieu tel qu'il a créé. Ce qui est important, c'est la conscience que j'ai, moi, en tant que croyant par rapport à Dieu, dans ce monde dans lequel je suis responsabilisé, ici et maintenant. Donc, l'homme du premier chapitre, c'est l'homme de nature. L'homme de nature, c'est l'homme de l'instinct. Il ne reçoit aucun ordre de Dieu, il reçoit une bénédiction de Dieu. Manger de tout, sans limitation. La limitation de ma consommation sera mon rassasiement. C'est comme les animaux. C'est-à-dire, vous mangez, on ne va pas tarder à manger, c'est pour vous ouvrir l'appétit déjà. Eh bien, vous mangerez jusqu'à être rassasié. Dans nos sociétés de surconsommation, on peut même manger au-delà. Ce qui cause des problèmes de santé. Mais sinon, les animaux, par exemple, vont manger juste ce qu'il faut. Même s'ils ont trop mangé, eh bien, ils ne mangent pas le lendemain. Ils mangent juste ce qu'il faut. C'est l'équilibre, encore une fois, dans la nature. Il n'y a aucune loi extérieure à moi-même qui me dit « arrête de manger ». Ça, c'est l'homme de nature. Dans le chapitre 2, c'est le même Adam, mais dans un rapport à Adonai Elohim. Mais Adonai, c'est pas le dieu de la nature, c'est le dieu de la morale, c'est le dieu de la spiritualité. Et il demande à l'homme de gérer sa nature. C'est pas pareil de subir sa nature et de gérer sa nature. Parce que ça va donner une définition de la liberté. La liberté, est-ce que c'est le fait de suivre sa nature, ou c'est le fait de gérer sa nature? Alors il y en a qui vont me dire, la liberté, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux, ça veut dire je réponds aux exigences de ma nature. Et bien si ma nature c'est de voler, si ma nature c'est de violer, si ma nature c'est de tuer, parce que j'ai des pulsions, c'est pas de ma faute, c'est comme ça. Alors dans ces cas-là, on est soumis à sa nature. On va dire, mais je suis libre. Vous voyez ? Ou bien, la liberté, c'est d'apprendre à gérer sa nature. C'est ça le projet de la Torah. C'est chapitre 19 du Lévitique. C'est le projet de la sanctification. Soyez saints, car moi, je suis saint, l'Éternel, votre Dieu. Vous savez, être saint, un terme typiquement religieux. Saint, à part le Saint-Père, on n'utilise pas le terme saint dans notre société. Hein, voilà. Bon, là, peut-être là, uniquement dans le langage religieux, la communauté des saints, un lieu saint, la terre sainte, bon, qui est une terre enceinte en fait. Mais bon. Et qu'est-ce que ça veut dire être saint? Ça veut dire savoir se limiter dans sa conquête du monde. Par exemple, la sainteté, tu vas moissonner ton champ, tu laisseras un coin pour le pauvre. Hey, c'est mon champ jusqu'au bout là, j'ai la preuve que ça m'appartient, je sais. La terre, elle ne t'appartient pas, elle appartient à Dieu. Tu n'as qu'un droit de propriété sur la production. Et encore, le carré, ce n'est pas pour toi. Quoi ? J'ai bossé pour le pauvre ? Bien sûr que tu as bossé pour le pauvre. Tu crois que tu es tout seul sur la terre ? Dieu t'a donné la bénédiction d'un avoir, le verbe avoir n'existant pas en hébreu. Dieu t'a donné un avoir et tu ne serais pas responsable de ton frère. Mais c'est ce que Dieu dit à Caïn. Où est ton frère ? Je suis le gardien de mon frère ? Point d'interrogation. Réponse, oui, tu es le gardien de ton frère. Tu es le gardien de celui qui ne mange pas, tu es le gardien de celui qui ne s'habille pas, tu es le gardien de celui qui n'a pas de maison. C'est ce qu'on lit à Kippour, Kippour matin dans la Haftara, sur le texte des prophètes qu'on lit le matin, chapitre 58 d'Isaïe. La prière par mortification. Kippour, je ne mange pas pendant 25 heures. Ah, je suis proche de Dieu. Regarde comme je me mortifie. Pourquoi n'entends-tu pas notre prière ? Mon Dieu, écoute-moi, écoute-moi. Mon Dieu, fais-moi gagner au loto, fais-moi gagner au loto. Prends un billet d'abord. Nous nous mortifions, pourquoi ne vois-tu pas notre mortification? Et le prophète qui dit, vous n'avez rien compris. Vous jeûnez, non pas pour vous mortifier. Vous jeûnez pour prendre la condition de celui qui a faim. Donner à manger celui qui a faim, habiller celui qui est nu, donner un toit à celui qui n'en a pas. Voilà le véritable jeûne de l'Éternel. C'est pas que le prophète rend caduc le jeûne de Kippour. Il dit simplement que si vous pensez que le jeûne, c'est une prière particulière qui établit un lien vertical entre vous et Dieu, vous n'avez rien compris. Parce que jamais deux sans trois. C'est le principe, c'est le triptyque biblique. Jamais deux sans trois. Dieu, moi et l'autre. Dieu, Ani, le Anori qui devient Ani. En fait, on est Anori, parce que c'est le bébé. Je veux, je veux, je veux, je veux, je veux. Jusqu'au moment de l'âge de la bar mitzvah, ou de la communion, ou de la confirmation, où là, étant donné qu'on est pubère, donc 12 ans pour les filles, 13 ans pour les garçons, c'est-à-dire au moment où on porte la vie, qu'on est responsabilisé par rapport à la vie. Tant que je ne sais pas ce que c'est que la vie, parce que biologiquement, je ne sais pas ce que c'est que la vie, et l'enfant, il va se rendre compte. La jeune fille dit « Maman, il s'est passé quelque chose dans mon corps. » Le garçon, il dit « J'ai un peu de moustache. » Il se réveille le matin, il s'aperçoit qu'il se passe des choses le matin. Alors, il est conscient qu'il est porteur de la vie. Alors, si l'éducation se passe bien, la sexualité n'est pas tabou, on en parle, clairement. Pas au voyeurisme étalé comme ça, mais dans une discussion où on met des mots. Et donc, on explique le monde tel qu'il est, comme des parents responsables à leurs enfants, comme des maîtres à leurs disciples. Il y a un traité du Talmud qui s'appelle Nida, menstruation. Bon, on en parle, tout simplement, c'est une partie des lois de Dieu. Voilà. Sans tabou, sans ironie, sans moquerie. C'est parce qu'on cache tout ça que les enfants à l'école, j'ai une histoire salée à te raconter. Sinon, on peut être serein et on peut en parler. Voilà. Donc, c'est quand on devient porteur de la vie qu'à ce moment-là, on est responsabilisé. Le anori, qui est un jeu absolu, du jeu « je veux, je veux, je veux », devient un jeu relatif, un « ani », parce qu'il y a l'autre. Jamais deux sans trois. Dieu, moi et ata, acher, l'autre. L'autre, acher, qui vient de « ar », qui veut dire « frère ». Parce qu'en hébreu, après, autre et frère ont la même étymologie. En français, c'est trois étymologies différentes. Autre, après et frère. Alors qu'en hébreu, c'est la même étymologie, c'est ach, ça veut dire frère. Frère qui donne achar, après, donc l'après c'est après moi. Le acher c'est l'autre, celui qui n'est pas moi. Et même ça donne erad, l'unité. L'unité n'étant pas confusion des genres, c'est une question aussi aujourd'hui, les confusions des genres, c'est pas. Mais c'est la reconnaissance de la différence de l'autre et trouver l'harmonie de ces différences. Donc, Erad, voilà. Dieu est un. Et donc, il renvoie à l'unité, mais l'unité du genre humain dans sa dimension masculine-féminine, dans ses 70 manières d'être homme et 70 visages et 70 langues. Donc je reviens à notre texte, vous voyez, que Dieu place Adam dans le jardin, hein, il ne l'a pas créé dans le jardin, il l'a créé à l'extérieur du jardin, il l'a placé dans le jardin qui est devenu sa terre promise. Voilà. Et c'est d'ailleurs dans le jardin qu'il va rencontrer sa promise, qui est Ève. C'est la terre promise parce que c'est une femme promise. Ah bien sûr, c'est une terre, quand on parle de la terre promise, c'est une terre de conflit. Parce qu'il y a des histoires d'amour avec cette terre. Comment il faudrait reconnaître qu'elle appartient à Dieu, puisque le texte de la Torah dit dans Lévitique 23, « Car la terre est à moi, vous êtes des étrangers. Hein » Donc ce que je disais tout à l'heure, sur « Vous serez saints », c'est-à-dire la sainteté, c'est pas de se mortifier, forcément. Ça peut être une démarche spirituelle. Jésus nous a dit, hein, quand vous voulez vous mortifier, hein, vous jeûnez discrètement, hein, puis vous mettez de l'aftershave, vous faites un brushing, et personne ne doit savoir. Hein. Vous jeûnez en... Vous mangez des petits cachous pour vous donner un goût de réglisse dans la bouche, comme ça on ne sait pas que vous jeûnez. Hein. Ben, c'est lui Jésus. Il n'y a que Dieu qui doit savoir. Parce que sinon, bah, si vous voulez que les gens sachent que vous jeûnez à ce moment-là, bah, vous recevez votre récompense. Ça veut dire vous faites votre récompense. Ça veut dire vous vous auto-satisfaisez de votre démarche religieuse. Donc en fait, vous avez marqué un but, ou alors vous avez jeûné, c'est pareil. Oui. Ce n'est que la discrétion qui donne la valeur aux choses. Il n'y a que moi et Dieu, Dieu et moi. Qui sait ? Moi, à la limite, peut-être un cercle restreint. Parce que si quelqu'un jeûne, on finit par savoir un cercle restreint. Mais voilà. Donc, c'est ça la sainteté. Vous voyez ? Et le deuxième chapitre de la Genèse, c'est l'homme qui est appelé par Dieu à mettre une limite. Limite au coin du champ. Mais ça veut dire aussi tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est là qu'on trouve aussi dans le programme de la sainteté, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Tu ne te vengeras pas. C'est toujours une lutte contre la nature. Combien de conflits aujourd'hui sont fondés sur l'esprit de vengeance ? Entre les chiites et les sunnites, c'est une affaire de vengeance. C'est parce que, ou bien on descend directement par le disciple du prophète ou le genre du prophète. Mais en Europe, c'était quoi ces conflits ? C'était des conflits de vengeance. On a gardé la mémoire des conflits. Et l'Europe a été construite sur le fait de dire on arrête l'esprit de vengeance. Sinon, on aura encore les Cheux d'un côté et les François de l'autre, etc. Et on se fera encore la guerre. D'où les dangers des populismes aujourd'hui, qui veulent revenir à un état antérieur. C'est-à-dire, on se replie sur soi-même, on dénonce l'étranger, on supprime l'étranger, dehors. Vous voyez ? Bon. Ben, le projet de sainteté, c'est le projet de moraliser l'histoire aussi. C'est-à-dire limiter son espace d'être, sa consommation du monde, pour que l'autre soit aussi. Et il l'a placé dans le jardin d'Éden, pour le travailler et pour le maintenir. C'est-à-dire, on travaille, on bonifie le monde de Dieu. On bonifie le monde de Dieu. Comment ça ? Le monde de Dieu, il n'est pas parfait ? Non, il est à parfaire. Il est parfait, mais on a parfaire. Je terminerai peut-être sur une image rabbinique. Un Romain qui demande à un Rabbi Akiba, donc un grand maître qui est mort en martyr en 135, et il lui dit, si Dieu voulait la circoncision, bah, il aurait créé l'homme circoncis. Donc, qu'est-ce que c'est que cet acte chirurgical que vous faites sur votre corps ? Alors, toujours une image rabbinique, il lui amène, ce Akiba, il lui amène du blé et du pain. Alors, un pain de Shabbat, n'est-ce pas ? Vous avez déjà vu la challah, le pain de Shabbat, et puis le blé. Qu'est-ce que tu préfères ? Bah, il dit, bah, je préfère le pain. Il dit, bah, tu vois, le blé, l'homme, il ne peut pas fabriquer. Ça, c'est pas bara. C'est Dieu qui a créé le blé, le premier blé originel. Nous, on ne fait que transformer. En fait, le blé que nous avons aujourd'hui, ce n'est que le résultat du premier blé qui a existé. En fait, le pain qu'on va manger aujourd'hui, c'est la mémoire du monde. Le pain d'aujourd'hui, c'est la mémoire du monde. Donc, manger ce pain. Manger ce pain, c'est manger la mémoire du monde. Buvez ce vin, mais ce vin, c'est la mémoire du monde. C'est-à-dire, en souvenir de moi, manger ce pain et buvez, c'est le vin, c'est le pain, c'est mon corps et c'est mon sang, c'est-à-dire c'est la mémoire du monde. Ça veut dire que ce qui se passe aujourd'hui, c'est dans la continuité des engendrements depuis l'origine, depuis les engendrements du ciel et de la terre. Et ça doit continuer dans l'engendrement, ça veut dire dans le principe de vie. Donc manger le pain, boire le vin, ça veut dire aussi continuer la vie. Voilà. Alors, des fois, il faut du pain nouveau, c'est vrai. Ils sont sortis d'Égypte, il fallait du pain sans levain. Parce que comme le levain égyptien, ça donne une société esclavagiste, alors on va commencer un nouveau pain sans levain. Mais levain est levé à Yen cette fois-ci. Hein ? Mais c'est toujours la farine de l'origine. Parce qu'il n'y a de pain d'aujourd'hui que parce qu'il y avait le pain d'hier. Le pain d'hier, le pain d'avant-hier, vous voyez ? En fait, le levain, ça serait le pain de l'Égypte fermenté de son esclavagisme. Ça, on supprime. Et on fait un pain nouveau, comme le psalmiste dit, chanter à l'Éternel un chant nouveau. Il faut faire du hadash, faire du nouveau. C'est pourquoi le premier commandement qui est donné à Israël, c'est l'établissement d'un calendrier lunaire dont le mot moi se dit Chodesh, qui veut dire, qui vient de Chadash, nouveau, le renouvellement de l'être. Et c'est le sens de la prière. Donc, il lui dit, qu'est-ce que tu préfères, le blé ou le pain? Il dit, je préfère le pain. Il dit, tu vois, le blé, aucun homme ne peut le fabriquer. Le pain, c'est une transformation de ce que Dieu a fait. Simplement, on a bonifié un petit peu ce que Dieu a fait. Dieu a créé le blé à l'état brut. Il a dit à l'homme, tu mangeras le pain là sur de ton front, qui n'est pas une malédiction. Simplement, la découverte du feu, c'est pour ça qu'il transpire. Et par le feu, la première forme d'énergie, eh bien, il va manger le pain. Le monde est bonifié. Et Dieu est content, parce qu'on se partage rarement du blé, par contre, on se partage le pain. Voilà. Et donc, c'est la paix. À quoi ressemblera le royaume? Ben voilà, c'est un grand repas où chacun partage, et puis on respectera les régimes des uns et des autres, parce que ça ne veut pas dire qu'il faut manger tous la même chose. On peut tous manger ce qu'on veut. Moi, je mange ceci, moi, je mange cela, j'aime ceci, j'aime cela. C'est la grâce de Dieu. On n'aime pas tous la même chose. On respecte. Et donc, voici ce pain. Et bien, de la même manière, la circoncision, c'est finalement, dans la tradition juive, si on se reconnaît fils d'Abraham et qu'on veut continuer, eh bien, on apporte cette dimension spécifique à l'être corporel, qui concerne qu'Israël d'ailleurs, et Paul a raison de dire que pour les païens, il n'y a pas besoin de passer par tout ça, premier concile de Jérusalem. Voilà, ben, je crois que ça nous a ouvert l'esprit, enfin l'appétit, pardon, pas peut-être l'esprit, l'appétit d'ailleurs. Voilà. Eh bien, ben voilà, ben, on va continuer.
Merci.
Ne manquez pas le prochain épisode où nous allons assister aux premières prières de l'humanité. Voilà. Dans notre prochain épisode. À quelle heure?
Alors peut-être... Ah non, excusez-moi.
Parce qu'il y en a qui veulent aller faire du ski ou je ne sais pas, à quelle heure ils doivent revenir?
On dit vraiment 2 heures, nous alors, recommençons. Alors, est-ce que ça vous va?
Alors 2h-5, il faut déjà commencer.
Ah oui. Oui, même moins 10 d'être dans la salle.
Voilà. Comme ça, 2 heures.
En principe, nous sommes tous à côté, donc en principe, maintenant si des personnes ont envie de se promener, c'est vrai qu'il y a un beau soleil, donc nous vous souhaitons, je vous souhaite bon appétit, l'été à Vol. Il y aura du chauffage, notre chauffagiste préféré, entre autres, électricien aussi. Jean-Marc nous a remis du chauffage, parce que c'est vrai que c'était limite. Et puis peut-être, avant de commencer à manger, vous avez vu, c'est comme d'habitude, vous connaissez, lorsque nous faisons ça pour nos assemblées générales. D'abord, on peut s'asseoir là. Vous pouvez utiliser toute la partie qui est côté table ouverte et pas l'autre côté. Ça nous a été demandé, mais il y a, je pense, largement de quoi s'asseoir. Et si vraiment, il y avait... Bon, on ira un petit peu de l'autre côté. Peut-être pourrez-vous nous faire une prière avant de manger?
Oui.
Je sais, chez nous, c'est le Birkat Hamazon, on le fait après manger. Mais aussi avant, n'est-ce pas? Voilà. Alors peut-être avant que nous nous précipitions, ce qui n'empêche pas peut-être de remplir nos assiettes, mais merci Philippe de nous faire une prière. Et puis je crois, est-ce que c'est pendant le repas que vous avez envie de nous jouer de la guitare?
Oui, ça va faire piano-bar.
Piano-bar. Bon, voilà, ça va être... ce sont des petites surprises.
Piano-bar mitzvah avec une guitare.
Avec une guitare. Petite surprise, voilà, que nous allons avoir aussi. Samuel,
tu veux nous dire? Poser une question maintenant.
Les questions, peut-être après. C'est après, mais tu seras le premier. Ouais. Merci, à tout de suite, bon appétit.
Je prends
le temps.